les informations de Babel Congo.
Le projet de loi portant statut de l'opposition en examen ce mercredi à l'Assemblée nationale. La plénière de ce jour a aussi permis de valider les mandats de nouveaux députés en remplacement de ceux nommés ministres. Des tirs nourris entendus la nuit dernière à Niamilima au Nord Kivu. La responsable de la brigade mixée Bravo parle d'une attaque de rebelles FDLR qui tentait d'occuper cette cité. Et puis de peu de dossiers pour les candidats mandataires des entreprises publiques. L'opération a débuté hier lundi à Kinshasa. Bonsoir à tous. Au plénière ce mercredi à l'Assemblée nationale. Deux points à l'ordre du jour. Validation des mandats de 27 députés qui remplacent ceux nommés ministres dans les gouvernements central ou provincial. Et surtout, examen et adoption du projet de loi portant statut de l'opposition. Cette loi, on le sait, est très attendue. C'est elle qui devra conférer à l'opposition congolaise le statut d'opposition constitutionnelle. Depuis le palais du peuple de Kinshasa, Jeff Ngoy nous donne des précisions sur le contenu de ce projet de loi rédigé par la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale.
Le projet de loi actuellement en discussion à l'Assemblée nationale confère aux leaders de l'opposition parlementaire ou extra-parlementaire le rôle de coordonnateur de l'opposition. Mais cette qualité ne lui confère en rien une certaine autorité sur d'autres formations de l'opposition politique. Simplement, la loi lui accorde une primauté institutionnelle dans la représentativité de l'opposition, étant donné le caractère pluriel de celle-ci. La loi justifie cette approche en voulant formaliser le statut de l'opposition en RDC, partant d'autres réalités qui se font ailleurs dans d'autres pays. Les droits et devoirs de l'opposition sont clairement codifiés dans ce projet de loi, suivant un équilibre qui reconnaît à la majorité constitutionnelle le droit de gouverner dans un climat apaisé et à l'opposition le droit de critiquer l'action gouvernementale dans une approche constructive. L'opposition peut ainsi exercer cette liberté d'expression à travers le Parlement ou en dehors du Parlement. Les droits reconnus à l'opposition font aussi objet d'une disposition pénale en cas de violation ou restriction des droits reconnus à l'opposition. De même, la loi reconnaît la coexistence de l'opposition parlementaire et de l'opposition extra-parlementaire. Les députés examinent et votent maintenant le projet de loi article par article. Au total, 29 articles sont contenus dans ce projet de loi. Depuis le palais du peuple, Jeff Ngoy, Radio Okapi.
Selon le rapport de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale, la désignation du coordonnateur de l'opposition se fera par consensus. En cas d'échec de consensus, les groupes parlementaires de l'opposition passeront au vote et le futur coordonnateur de l'opposition viendra soit du Parlement, soit de l'extérieur de cet hémicycle. Il aura rang de ministre avec le même traitement dû aux membres du gouvernement. Du côté des assemblées provinciales, le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental a demandé hier à la CEI, Commission électorale indépendante, d'organiser dans les 15 jours l'élection d'un nouveau gouverneur de province en remplacement de Trésor Kapuku, défié par les députés provinciaux. Réponse de la CEI, le recours du gouverneur Kapuku étant suspensif à la cour d'appel de Kananga, il y a lieu d'attendre d'abord l'arrêt de cette instance judiciaire. Dieudonné Mirimo, rapporteur de la CEI, joint par Innocent Olenga.
La commission électorale indépendante a été notifiée le samedi 9 juin 2007 du procès verbal sanctionnant la plénière sur le vote de la motion de défiance contre le gouverneur de la province du Kasaï occidental. Le même samedi, la commission électorale indépendante a reçu en copie le recours introduit par le gouverneur de la province à la cour d'appel de Kananga. Le recours étant donc suspensif, la commission électorale indépendante attend que la cour d'appel de Kananga puisse se prononcer contre ou en faveur de vote afin de prendre toutes les dispositions.
Oui, mais le président de l'Assemblée provinciale parle de la constitutionnalité de cette motion de défiance.
Il ne lui appartient pas de constater la constitutionnalité de la motion. C'est pour cela que les cours et tribunaux ont cette compétence-là. La CEI donc attend que la cour d'appel de Kananga puisse se prononcer. Et dès que la cour se sera prononcée, la CEI va fixer l'opinion sur l'organisation ou non des nouveaux scrutins pour la province du Kasaï occidental.
Restons au Kasaï occidental pour signaler que les chefs de division provinciale des services publics ont 48 heures pour libérer leur maison d'habitation. C'est ce que dit un communiqué du chef de division provinciale de l'urbanisme et habitat, message publié ce matin sur les chaînes locales. Selon ce communiqué, ces maisons doivent désormais abriter les nouvelles institutions. Les chefs de division qui se disent très bousculés par la mesure sollicitent la prolongation du délai afin de s'apprêter au déménagement. Des détails avec Marie-Chantal Lumba.
Il s'agit de 8 résidences situées sur le boulevard Lumumba contre l'avenue Mukenge Shabantu qu'occupe 8 chefs de division provinciale. Le chef de division provinciale de l'urbanisme et habitat affirme que l'échéance leur accordée est déjà consommée. Crispin Mukinaï souligne que ce délai de 48 heures est une dernière mise à demeure pour les avertir que des mesures de déguerpissement forcé sont envisagées à leur endroit s'ils ne libèrent pas les maisons. Les chefs de division provinciale concernés reconnaissent avoir été notifiés et que les procédures en la matière ont été respectées. Mais ils soulèvent certaines inquiétudes, notamment que sur les 8 maisons qui leur ont été nouvellement attribuées, seulement 2 sont libérées. Et aussi que ces résidences situées à 10 kilomètres du centre-ville se trouvent loin des écoles que fréquentent leurs enfants. C'est ainsi qu'ils souhaitent que le délai soit prolongé jusqu'à la fin de l'année scolaire pour des raisons de commodité. Pour le chef de division provinciale de l'urbanisme et habitat, une décision de prolongation ne peut se prendre qu'au cours d'une concertation avec le chef de l'exécutif provincial. Mais toutefois, ces agents sont sur terrain en vue de rappeler aux privés qui résistent encore que leur contrat résilié depuis 3 semaines, ils sont sommés de quitter ces maisons de l'État sans condition. De Kalanga, Marie-Chantal Mumba, Radio Okapi.
Rendons-nous au Nord Kivu. Des tirs nourris ont été entendus la nuit dernière à Nyamilima, c'est à 50 km à l'est de Rutshuru centre sur la route de Ishasha vers la frontière avec l'Ouganda. Le responsable de la brigade mixée Bravo, basé sur place, affirme qu'il s'agit d'un groupe de rebelles FDLR. Ces rebelles ont attaqué leur position pour prendre possession de la cité, mais ils ont été repoussés. Pour l'heure, aucun bilan n'est encore disponible. Plus de précisions avec Rosalie Zawadi.
Selon des habitants joints sur place, les tirs ont débuté aux environs des 19h, on dirait plus de 2h. Il parlait même des tirs des mortiers dans la cité. Les commandants seconds du bataillon de la brigade mixée Bravo, basé à Nyamilima, mettent en cause les FDLR qui, selon lui, sont venus occuper la position FARDC sur place pour prendre le contrôle de la cité. Dans les échanges des tirs qui s'en sont suivis, un militaire FARDC a été blessé, a dit ses responsables, qui dit n'est disposé pour le moment d'aucun bilan côté assaillant. Pour sa part, l'administrateur des territoires assistant résident Nyamilima signale les pillages de certains biens de la population par ses assaillants. Ce matin, la situation est redevenue calme sur place. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, les enfants jadis associés au FRDC basé à Mouesso, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Goma, dans le Massissi, déplorent l'insuffisance des moyens mis à leur disposition pour leur intégration. Ils affirment ne recevoir chacun que une houe et une couverture pour le retour à la vie civile. Parmi ces enfants, certains ont exprimé leur envie de retourner dans l'armée si leur situation n'est pas améliorée. Du côté de la MONUC Goma, Claudia Seymour, responsable de la section protection de l'enfant, affirme que cette difficulté est due au manque de fonds. On l'écoute au micro de Gisèle Cage.
Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas reçu assez de fonds pour mettre en marche le programme de réinsertion. Il y a des fonds qui sont prévenus par le système des Nations Unies, par l'UNICEF, par la Banque mondiale même, mais ça c'est toujours le processus bureaucratique. C'est les fonds du gouvernement qui doivent être ciblés pour les communautés où les enfants sont plus en risque et l'éducation qui va être la meilleure prévention pour le recrutement d'enfants. Et c'est là où on rappelle à tous les militaires, il est contre de recruter les enfants. Si les enfants même veulent venir chez eux, qu'ils ne les acceptent pas, qu'ils le rentrent à leur famille, ou ensemble avec le gouvernement, avec toute la communauté, on va essayer d'améliorer leur situation.
Notez qu'à ce jour, environ 2500 enfants retirés de l'armée et de groupes armés au Nord Kivu sont en attente de leur réinsertion dans la communauté. Au sud Kivu, précisément à Kalongé, en territoire de Kalehe, les villages périphériques du parc national de Kaoze-Diega ont récemment été la cible de plusieurs attaques de présumés combattants hutu-rwandais. Le bilan des attaques du 1er au 7 juin dernier fait état de 10 personnes enlevées. Parmi elles, 4 ont été tuées. Depuis, la population de Kalongé vit dans la psychose. Le point avec Jean-Baptiste Ntonga qui s'est rendu sur place.
Cette mission de la MONUC a rencontré la population des localités de Rambo et Moulé, un groupement de Kalongé, encore sous le choc des dernières attaques. Pacifique Mouloumioderoa, chef de groupement de Moulé, s'exprime.
Nous sommes insécurisés par des hommes armés appelés Stélé Rasta. Des tueries se sont déroulées la fois dernière à Kakoula-Sindoula. 5 personnes ont été tuées. Nous ne sommes pas en paix ici, dans le groupement des Moulés. Nous passons la nuit dans la bourse chaque jour, même si vous le voyez pendant la journée.
Cette situation d'insécurité influe sur la vie quotidienne des habitants de Kalongé. Témoignage d'une habitante rencontrée à Rambo.
Dans des soirées, les enfants, les mamans vont dans la forêt pour se cacher. Là, on ne sait pas bien vivre. Les gens sont attaqués par des maladies. Les enfants souffrent souvent de couches à cause des manques de nourriture. Il fallait assez que les autorités puissent songer de nous en nous protégeant.
La population de Kalongé lance un appel pressant aux autorités compétentes et à la MONUC pour un retour rapide de la sécurité dans l'entité. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
Au Kasaï oriental, plus de 2500 familles sont sans abri dans la localité de Kajingu. C'est à 94 km de Mbujimayi, secteur de Pemba, dans le territoire de Kabila Kamwanga. C'est la conséquence des affrontements entre les habitants de Kajingu et ceux de Tenda dans le Kasaï occidental sur un conflit foncier. L'évaluation de la situation humanitaire a été faite lundi soir au cours d'une réunion interagence au quartier général de la MONUC. Avec Esther Dalafina.
La mission d'évaluation a été dépêchée sur place la semaine dernière par le gouverneur de province. Elle rapporte que les affrontements ont opposé fin mai les habitants de la localité de Kajingu à ceux de Ntenda, une localité frontalière du Kasaï occidental, à la base un conflit foncier. D'après les enquêtes faites sur place par les autorités de Kabiakamwanga, les hommes venus de la localité de Ntenda au Kasaï occidental ont traversé la frontière pour attaquer les habitants de Kajingu. Le bilan, selon l'administrateur de territoire assistant, 284 brûlés, 4 personnes blessées grièvement et une quantité importante de produits agricoles brûlés, laissant ainsi plus de 2500 personnes sans abri dans la localité de Kajingu. Côté Ntenda, 2 personnes étaient grièvement blessées. Joseph Mbouyi affirme que les menaces d'attaque pesaient depuis plusieurs années sur les habitants de Kajingu. Il invite les humanitaires pour une assistance aux sinistrés. En même temps, il propose une rencontre entre les deux autorités provinciales pour repérer les limites des localités frontalières du Kasaï oriental et occidentale. Mbujimayi, Esther Dalafina, Radio Kapi.
Revisitation des contrats miniers, la voix de son voix s'inquiète quant à l'aboutissement de ces travaux lancés lundi dernier par le ministre des Mines. Pour la VSV, d'autres rapports élaborés sur le pillage de ressources minières de la RDC sont restés aux lettres mortes. Aussi, l'ONG invite le gouvernement à accorder toutes les facilitations à la commission, car ce travail pourra permettre à la population de bénéficier réellement des revenus miniers. On écoute Justin Chiba, chargé de communication de la VSV. Il est joint au téléphone par René Capitaine.
Nous sommes en train d'exprimer des craintes parce que tout part des commissions qu'on met en place et pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et à ce sujet, nous sommes en train de rappeler qu'avant ces travaux de la commission, il y a eu les rapports de la commission Lutondola relatifs donc au pillage et exploitation illégale des richesses du Congo qui est resté lettre morte jusqu'à ce jour. Également, les rapports du panel d'experts des Nations Unies sur l'exploitation illégale et pillage des ressources naturelles du Congo. Plusieurs personnalités ont été cités. Certains se retrouvent encore au pouvoir aujourd'hui. On se demande est-ce que cette commission pourra aller jusqu'au bout de la logique. C'est comme ça qu'on se demande. Est-ce qu'avec les travaux lancés en rapport avec les contrats miniers qui ont été signés entre l'État congolais et certaines entreprises privées, est-ce que cette fois-ci, les personnes mises en cause dans les signatures de ces contrats qualifiés de lyonnais, est-ce qu'ils seront poursuivis pour qu'en fin de compte, la population congolaise puisse bénéficier réellement de ces richesses?
C'est depuis hier mardi que le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, COPIREP, a commencé à réceptionner les dossiers des candidatures des futurs mandataires des entreprises publiques. L'opération se déroule jusqu'au 27 juin prochain. Les candidats de l'intérieur du pays et de l'étranger doivent envoyer leur candidature par courrier ou par Internet. Mais quelle garantie de transparence peut avoir la population par rapport à cette opération? Albert Liekemilaï, chargé de communication COPIREP, répond au micro de Jocelyne Moussaoponde.
Nous avons mis en place des structures d'accueil qui permettent à chaque candidat ayant déposé son dossier de recevoir un récépissé numéroté et donc il pourra brandir à tout moment pour dire écoutez j'avais déposé ma candidature mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas été traitée. Le Congolais doit commencer peut-être à faire confiance à ses propres structures et à ses propres institutions et qu'il faut peut-être attendre de nous juger sur pièce. Ce n'est pas la première opération que le COPIREP conduit en termes de recrutement de gestionnaires d'entreprises. Souvenez-vous que la GECAMINE aujourd'hui est dirigé par un comité de gestion qui a été entièrement recruté, hein, le cadastre minier également, ce qui nous a permis de développer une certaine expertise. La phase de dépôt de candidature va se dérouler jusqu'au 27 juin. Ensuite, ces candidatures seront analysées. Il y aura une première sélection sur base du dossier. Ensuite, il y aura un test et puis une interview. Ce sont les étapes habituelles d'un recrutement normal.
C'est la fin de ce journal.